Quatrième partie, chapitre 1. Ce fut de la façon la plus naturelle et la plus facile qu'André Humbert devint peu à peu l'hôte presque quotidien de la famille Jacquier. Antoine, la première bataille gagnée, avait poursuivi son avantage, marquant à sa belle-mère tant de vifs plaisirs et de gratitude pour la présence de son ami, que Madame Jacquier, qui ne demandait qu'à se concilier Antoine, avait très pressamment renouvelé ses invitations. Quelque chose de détendu, d'apaisé, d'aimable semblait régner dans la petite salle à manger quand André Humbert s'y trouvait. La conversation coulait plus aisée et sur de nouveaux sujets. Antoine avait une foule de choses à raconter. M. Jacquier lui-même s'animait dans des discussions concernant les choses de l'enseignement qu'il avait toujours intéressé, mais qui, au rebours, impatientait son fils. Souvent, Madame Jacquier hasardait un mot, moins inquiète, moins susceptible, parce que André Humbert était là, qu'il écoutait avec une déférence tranquille et n'avait pas l'air de trouver absurde et détestable tout ce qui sortait de sa bouche. Ce n'était point seulement la politesse, la tension banale due à la maîtresse de maison, c'était autre chose que Madame Jacquier ne définissait pas, mais dont elle subissait l'influence. Au bout d'une quinzaine, elle avait déjà pris l'habitude d'en appeler à André dans les difficultés de la conversation, quand elle allait s'embourber, et qu'Antoine prenait son air sarcastique. « Ah, si mon fils ressemblait davantage à son ami, soupirait-elle en elle-même, quelle vie agréable nous aurions !» Antoine doit voir maintenant combien ses partis pris étaient injustes, puisque son ami, tout aussi intelligent et artiste que lui, m'écoute toujours et approuve mes idées. Je me félicite d'avoir songé à inviter ce jeune homme, malgré le dérangement que cela me causait. Et puis, la satisfaction de faire une bonne œuvre. Antoine a toujours l'air de me croire égoïste. Antoine, l'opinion d'Antoine, l'approbation d'Antoine était son éternel objectif et vraiment, il fallait plaindre la pauvre femme qui, en retour de ses avances plaintives, ne rencontrait qu'un dédain à peine dissimulé. Cependant, il arrivait à Antoine de penser « Ma belle-mère gagne positivement, elle a plus d'esprit, plus de délicatesse. Elle dit des choses presque intéressantes et elle semble avoir pris André en affection. » À chaque marque de cordialité qu'on donnait à son ami, à chaque petite attention de Madame Jacquier, les yeux d'Antoine s'éclairaient. Son visage changeant, sa bouche mobile, exprimait sans parole un remerciement que sa belle-mère savait bien y lire, elle qui, dans ses yeux orageux, avait souvent lu des choses très différentes. Antoine avait redouté, pour la sensibilité encore un peu morbide d'André Humbert, l'étonnant manque de tact qui, presque toujours, faisait choisir à Madame Jacquier le mot irritant, l'allusion désagréable. Il se tenait sur le qui-vive, mais, dans une ou deux occasions seulement, sa vigilance trouva à s'exercer. Un soir, Madame Jacquier, par inadvertance, par habitude aussi, qui lui venait de s'adresser à André plutôt qu'à son beau-fils, se tourna vers le jeune homme et le pria de lui tenir un écheveau. Il rougit. Exhiber son inévitable maladresse lui répugnait terriblement. Cependant, il posait déjà son crayon quand Antoine, levant la tête avec vivacité, intervint. « Il me semble, maman, que j'ai des droits plus anciens sur vos écheveaux. Est-ce que je vais être dépossédée de mes fonctions ?» Madame Jacquier se mit à rire, d'un petit rire gras et satisfait. Au lieu de deux esclaves, elle en avait trois maintenant. Elle leva les yeux vers le cadre ovale qui dessinait un anneau d'or sur la boiserie grise et elle envoya un petit souvenir de parfaite résignation à l'enfant disparu. Le ciel l'avait amplement dédommagé de sa perte en lui donnant, à elle, veuve sans fortune, cette maison confortable, ce mari toujours dévoué et patient, ce fils qu'elle ne désespérait point de plier à son joug. Ne se tenait-il pas devant elle, les deux mains liées par les chevaux, qu'elle ne se pressait point de dévider ? Elle le regarda. Il eut tout à coup ce froncement de sourcils, ce pli violent comme involontaire qui changeait en une seconde sa physionomie. Elle comprit qu'elle lui avait déplu en quelque manière et fit sa petite moue. Mais elle ne perçut sa méprise que peu à peu, le lendemain. Elle avait les intuitions lentes. Son mari, à qui elle se confessa presque en larmes, la consola de son mieux. Antoine exagère presque la délicatesse. J'étais comme lui à son âge. On en rabat, car la vie ne nous traite pas nous-mêmes avec tant de ménagement.
Ah, cher ami, si tu avais vu le coup d'œil qu'il m'a jeté!
Oui, il est ainsi. Sa figure exprime les choses trop vivement.
Mais je ferai quelques nouvelles bévues, je le sens. Et alors, nous aurons une scène.
Quant à cela, Zéline, tu peux te rassurer. Par égard pour son ami, Antoine ne fera pas de scène.
Moi qui ai tant de sensibilité, tu imagines, cher ami, si j'ai fait exprès de froisser ce pauvre garçon ? Antoine est bien injuste à mon égard, soupira-t-elle. Hier soir, nous n'avions pour le souper que du veau froid, qui n'est pas une viande bien fortifiante. J'ai fait ajouter des œufs à cause d'André Humbert. Je suis pleine d'attention de ce genre, au point que parfois même, j'en ai la tête fatiguée.
Antoine, peu à peu, s'accoutumait à passer avec son ami toutes ses heures de loisir. André Humbert dessinait avec acharnement, soit dans la chambre de la Touffette, soit en plein air, et le soir encore chez les Jacquier. Il faisait des exercices de ligne comme un écolier, mais sa fantaisie d'artiste arrivait à se traduire même par l'imperfection des moyens, savait tirer parti même des écarts du crayon rebelle. Antoine, qui suivait tout ce travail avec un ardent intérêt, étudiant chaque page des albums de son ami, se demandait parfois si le talent d'André ne gagnerait point finalement à traverser ses difficultés, si le dessin, moins ferme et moins accentué qu'autrefois, avec la même force dans la conception, mais avec une certaine maladresse naïve et bizarre dans l'exécution, n'acquérait point un charme supérieur. Sais-tu que tes petites compositions ont maintenant plus de cachet ? Dit-il un jour, qu'assis côte à côte sous le sapin de leur première rencontre, ils causaient et dessinaient ensemble. Les vacances avaient commencé avec les grandes chaleurs. Antoine disposait de tout son temps pour faire des aquarelles. On ne voyait plus guère l'un des amis sans l'autre. André Humbert avait repris son projet de chercher dans la nature jurassienne, dans nos arbres, nos fougères, nos graminées, nos insectes, nos oiseaux, les éléments d'un style décoratif original, et au moment où Antoine lui parlait, il crayonnait une ronde de petites mouches et de bêtes à bon Dieu parmi des feuilles de trèfle pour former la bordure d'un grand plat. « Oui, dit-il, considérant son croquis, un artiste verra du premier coup d'œil qu'il y a une idée là-dedans. La disposition de ces feuilles est heureuse. La nature a-t-elle rien inventé de plus joli que le contour du trèfle ? Si simple. Et pourtant, l'esprit humain, qui recherche une symétrie plus carrée, n'aurait jamais trouvé cette délicieuse harmonie du nombre 3. Mais le gros public aime la ligne nette et claire et ne verra dans ma composition qu'un barbouillage, même quand elle serait aussi achevée que je suis en état de le faire. Les élèves même, à moins d'être prodigieusement intelligents, estiment qu'avoir de la main est la première qualité requise d'un professeur. Mais tu en auras de la main dans 2 ou 3 mois si tu continues à travailler. Tu as déjà fait un progrès immense. Vois comme ton crayon est plus expressif et comme ces bestioles volent bien, dit Antoine. Elles sont légères, un souffle les enlèverait. Je me figure parfois qu'après tout, tu gagneras à être moins graveur. Peut-être, dit André, dont la lèvre trembla. Juliette Beausire n'était pas retournée à la Touffette, mais les deux amies, dans leurs allées et venues, la rencontraient fréquemment, ainsi que sa mère et les 3 sœurs rieuses. Quand il faisait beau, toute la famille vivait en plein air, faisait la sieste sous les groseilliers, et le soir, suspendait 2 ou 3 lanternes vénitiennes aux branches d'un petit lilas pour éclairer les discussions domestiques, jusqu'à l'heure où la rosée, décidément trop humide, obligeait ces dames à rentrer. D'un jardin à l'autre, on échangeait quelques propos et Madame Beausire déversait déjà sur André Humbert son ample bonté maternelle. Elle ne voyait jamais un jeune homme sans s'attendrir à cause du fils que la mort lui avait pris, ni une jeune fille sans l'aimer à cause des chères filles que la vie lui laissait. Elle aurait voulu élargir à l'infini le cercle de sa famille pour y accueillir tous les isolés,
tous les trices, et dans les trices, elle rangeait tout individu, homme ou femme, qui ne prenait pas la vie aussi gaiement qu'elle le faisait elle-même. « Nous inviterons ce jeune Humbert à notre soirée, » dit-elle à ses filles. « Nous n'aurions plus qu'une chaise qu'elle serait pour lui, et vous vous mettrez en frais, mes filles. Il faut qu'il oublie son malheur pendant qu'il sera chez nous. » L'invitation se fit aux deux jeunes gens par-dessus la haie. Pour Madame Jacquier, on n'y mit plus de forme, et on lui adressa un beau billet doré sur tranche, auquel elle répondit non moins cérémonieusement, en envoyant sa carte par la poste. « Tout en papier, ma chère, » disait Madame Beausire, son bras passé autour de la taille de Cousinette, qui, arrivée la première, s'extasiait sur l'air de fête du petit salon. Chaque lampe, chaque bougie, avait son transparent abat-jour rose. De grands papillons roses s'accrochaient aux rideaux, et les éventails de fougères qui ornaient les encoignures se dressaient dans de hautes urnes roses que personne n'eût soupçonné d'être de simples pots à beurre. Du papier de soie tout bonnement. Voilà 3 jours que nous ne faisions plus que crêper du papier. C'est joli et ça dissimule les fentes, les trous, les éraflures. Mon ménage n'est plus neuf, cousinette. Par bonheur, mes filles sont ingénieuses. Regarde-moi, Valentine, son corsage n'est-il pas ravissant? Eh bien, ma chère, ce corsage... En papier aussi, demanda cousinette, qui avait une pointe de malice à l'occasion. « Ah, mauvaise, je ne te confierai plus nos expédients puisque tu t'enrailles. » Des fleurs partout, jusque dans le soulier de porcelaine qui ordinairement contenait les allumettes, de longues traînes de lierre et d'épis soyeux retombant autour de la glace et des tableaux, un nœud de ruban rose égayant quelques vieux cadres défraîchis et 100 petites fanfreluches qui ne coûtaient rien, donnaient au vieux salon râpé un air accueillant et joyeusement frivole, l'air de la famille Beausire. Cousinette était une petite brune maigre, un peu triste et sentimentale. De son ancienne déception d'amour, il lui restait une souvenance mélangée de dépit et de douceur, vague et faible, et s'évaporant comme cet arrière-parfum de vinaigre aromatique qu'exhalent encore les vieilles petites cassolettes d'argent de nos grands-mères. Quand elle avait vu les choses mal tourner dans le ménage Beausire, Cousinette s'était consolée par le bon sens et se félicitait chaque jour encore d'avoir échappé au trimballage, aux ventes de mobilier, aux querelles domestiques et finalement à l'abandon qui était le partage de sa cousine la supplanteuse. Avec une autre femme, pensait-elle néanmoins, Reynold Beausire, l'aimable et le léger, eût peut-être suivi en meilleur chemin, mais le risque était grand, trop grand. Cousinette élevait son neveu, un jeune homme paisible qui ne lui avait jamais causé l'ombre d'un chagrin. Elle était satisfaite de son sort et consciente de pratiquer d'une façon très magnanime le pardon des anciennes injures. Elle avait même prêté de l'argent à sa cousine Beausire qui en payait l'intérêt en paroles tendres, en attentions, en bouquets. Quand Madame Jacquier, tout en satin noir et angé, entra, Madame Beausire lui présenta Cousinette avec une affectueuse effusion. « Ma plus ancienne amie, madame, une amie envers qui j'ai eu bien des torts, mais nous nous sommes aimés à travers tout. Une seconde mère pour mes filles. À vrai dire, elle devrait être leur mère, je vous raconterai cela. C'est tout un roman. Voici donc nos jeunes gens. Je suis heureuse de vous recevoir chez moi, monsieur Humbert. » « Ah, monsieur Antoine, prenez garde, vous allez renverser le guéridon derrière vous. C'est étroit chez nous et mes filles ont voulu mettre partout de petites tables. Mais je vous pardonnerai s'il vous arrive de casser quelque chose. J'ai un faible pour vous, monsieur Antoine, et vous le savez bien. N'en abusez pas. Vous trouvez jolis nos arrangements? Vous êtes bien bonne, madame. Le coup d'œil est gai, certainement. » Mais tout ça n'est que du papier, comme je le disais à Cousinette. « Tout en papier pourrait être notre devise, » fit-elle en riant. « Le solide, le cossu, nous ne le connaissons guère. Tout en papier, avec accompagnement de guitare. » Bricotte était fort en beauté ce soir. Assise près de la table à thé, avec un fond de guirlande de lierre, Bricotte formait un tableau vers lequel les yeux ravis de sa mère se tournaient continuellement. Mickey, plus tourbillonnante, installait chacun, remorquait les timides, s'en allait repêcher les épaves dans les coins et les embrasures. C'était son mot qu'elle répétait en riant, d'un rire clair comme une petite sonnette. Et l'on fusionnait. L'étincelle qui allume les conversations jaillissait partout. Nous serons gais, faisait Madame Beausire, assise sur le sofa à côté de sa propriétaire. Quel dommage que M. Jacquier n'ait pas consenti à être des nôtres. Il se sentait fatigué ce soir et se couchera de bonne heure. Depuis des mois, sa santé exige de grands ménagements. Il va et vient, il donne ses leçons, mais en réalité, il ne tient qu'à un fil, dit Madame Jacquier, qui, ainsi que toutes les femmes molles et lymphatiques, aimait à parler de maladie. Je lui ai trouvé très mauvaise mine ce matin, en effet, dit Madame Beausire d'un ton encourageant. Mais, avec ces tempéraments-là, c'est plutôt bon signe, voyez-vous. S'il était rouge, vous pourriez tout craindre. Regardez le cousin Daniel, il a l'air d'un déterré, et pourtant, il est bâti à chaud et à sable, comme on dit. Je dirais plutôt à chaud et à froid, si j'avais inventé ce proverbe, car celui qui supporte un chaud et froid peut espérer de longues années. Le cousin Daniel vivra 100 ans, ce que je lui souhaite de tout mon cœur. Le cousin Daniel, cantonné derrière une petite table avec 2 albums qu'il feuilletait consciencieusement, suivait d'un regard débonnaire ce gai va-et-vient de jeunesse, tandis que son frère Ananias, traînant un peu les pieds à cause de ses rhumatismes, et parfois bousculé, et bougonnant, et regardant de travers les hôtes de sa cousine, vaguait d'un coin à l'autre et critiquait tout. Juliette, vêtue d'une robe gris clair, dont la simplicité était accentuée encore par un bouquet de feuilles de lierre épinglées au corsage, Juliette allait et venait, inaperçue, dans son rôle ordinaire d'utilité. Elle veillait à ce que chacun eût une chaise et à ce que la flamme des bougies ne fît pas flamber les légers abat-jour roses. Elle avait l'œil sur Fanchonne, disposée alternativement à rire trop haut ou à devenir maussade. Elle prêtait une oreille un peu inquiète aux effusions de sa mère et elle se livrait mentalement à des calculs sans solution. Le problème des tasses n'était pas résolu. Depuis le jour où Madame Beausire avait pour la première fois parlé de cette soirée, la liste des invités s'était accrue, mais celle de la porcelaine valide avait plutôt diminué. « Bah, tout s'arrangera !» avait dit Madame Beausire. Quand les tasses manqueront, nous servirons le thé à la russe dans des verres avec une tranche de citron au fond. » Mais Juliette restait soucieuse. Elle n'avait pas la fertilité d'expédient de sa mère, ni sa joyeuse insouciance du « qu'en dira-t-on ? » Elle redoutait les regards froids de Madame Jacquier et, avec un petit serrement de cœur, elle épiait les impressions d'Antoine sur sa figure où tout se lisait. Pour le moment, on n'y lisait que la sympathie presque tendre que Madame Beausire avait su lui inspirer, une vraie inclination avec quelque chose de filialement protecteur dont sa belle-mère eût pu, à bon droit, être jalouse. N'est-elle pas charmante et maternelle ? Disait-il à André, debout près de la porte ouverte du balcon. C'est une fontaine de bonté que cette blonde petite femme, et quelle confiance dans la bonté des autres. Elle m'a pris le cœur le soir de son déménagement, rien qu'en mettant sa main sur mon bras et en levant les yeux comme un enfant qui demande du secours. Et ses filles, sont-elles assez amusantes? Mademoiselle Valentine est superbe ce soir. Quels beaux yeux! Mais il n'y a pas pour un sou d'âme dans ces yeux-là. Il suivait du regard les mouvements tranquilles et glissants de Juliette et il souhaitait qu'elle s'arrêtât près de lui. On accordait les guitares et Madame Beausire tenait la sienne sur ses genoux, une belle guitare ancienne en bois de citronnier, toute fleuronnée d'incrustations de nacre. On rangeait les chaises en demi-cercle pour les exécutants, en un cercle plus large pour l'auditoire. « Ceci n'est pas un concert, » s'écria Madame Beausire de sa voix allègre. « C'est une soirée à la bonne vieille mode, du temps où tout le monde chantait. Gare à ceux qui ne chanteront pas au moins le refrain. « Oh, ces guitares, je me crois revenue à ma belle jeunesse. Valentine, accorde donc la chanterelle de M. Rodier, tu vois qu'il n'en vient pas à bout. » mais Valentine était trop loyale pour enlever à Mickey un seul de ses privilèges. Il avait été entendu que M. Rodier était l'invité particulier de Mickey, et Mickey lui donnait sa première leçon de guitare. Il s'était déjà rendu maître d'un accord, celui en sol majeur. On décida que, par égard pour le débutant, on prendrait en sol majeur toutes les romances, sauf le jeune Helvétien, dont la mélopée plaintive exigeait décidément du bémol. Madame Jacquier, en l'honneur de laquelle, très spécialement, se donnait la soirée, fut priée de désigner elle-même les numéros du programme. Elle choisit « Fleuve du Tage » pour commencer. Juliette ne chantait pas, ayant un léger mal de tête, et pas de voix du tout ce soir, dit-elle à sa mère. Tout doucement, elle se glissa jusqu'au balcon et s'assit sur une petite chaise d'osier près de la porte. Si l'on avait besoin d'elle, on n'avait qu'à l'appeler. Elle s'étonnait de se sentir presque triste, car elle avait finalement pris son parti de la soirée et mis la main de grand zèle aux préparatifs. Pourquoi la gaieté de ses sœurs lui semblait-elle étrange et vide ? Pourquoi l'histoire, le peu qu'elle savait de l'histoire, de tous ces gens, leur passé, leurs difficultés d'existence, leurs chagrins, se dressaient-ils devant elle avec plus de relief et de réalité que leur figure même ? Ils étaient là, les yeux brillants, les lèvres entr'ouvertes, balançant la tête pour marquer le rythme de leur musique, les jeunes filles dans des poses gracieuses, et n'oubliant pas une minute l'effet qu'elles produisaient, avec leurs jolis doigts minces sur les cordes et le large ruban en couleur de bleuet, ou d'un rose antique, ou d'argent, passé en écharpe pour soutenir la guitare. Les jeunes gens, plus gauches et plus naïfs, insouciants de leur attitude, ouvrant la bouche largement sans se douter qu'ils étaient drôles à voir, et Cousinette, qui se mettait à chanter, elle aussi, les airs attendrissants de sa jeunesse, une main sur l'épaule de son neveu, la tête penchée. Dans la lumière rose des bougies, qui tremblait en ondes transparentes, Juliette les voyait comme un tableau. Ils ne lui semblaient pas vivants, mais une apparence et un mensonge. Leur être vrai se tenait au dehors, dans la nuit, les attendait là pour les reprendre, après une heure d'artificiel oubli. La joue appuyée au linteau de la porte et ses deux petites mains croisées devant elle sur sa robe grise, Juliette s'égarait dans une rêverie embrumée. « Vous n'êtes donc pas gaie, même ce soir ?»« Pas trop, » répondit-elle avec sa franchise ordinaire, sans s'inquiéter de son rôle de fille de la maison. Antoine Jacquier était devant elle, au seuil du balcon, se penchant un peu pour apercevoir sa figure dans la lueur adoucie qui flottait loin des lampes. « Nous attendons depuis une heure, André et moi, que vous vouliez bien nous accorder une parcelle de votre attention, » dit-il. Le moment est-il venu ? Oh, pourquoi pas ? Je n'ai maintenant rien de mieux à faire. » Il n'y avait pas l'ombre d'agacerie dans le ton de cette petite phrase que Mickey eût prononcée tout autrement. Mais, en Juliette, tout était simple. « Asseyez-vous tous deux, dit-elle, si vous désirez respirer l'air un moment. Il y a deux petites chaises dans ce coin, derrière la caisse de laurier. Vous n'aimez donc pas la musique ? « J'aime encore mieux causer avec vous. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas gaie. » C'est votre refrain, fit Juliette, qui poussa un petit soupir et se tourna vers André Humbert, comme pour le prier de répondre à sa place. « Vous êtes fatigué, dit-il avec cette sollicitude fraternelle qu'il lui avait témoignée dès le soir de leur première rencontre. « Un peu, mais ce n'est pas cela. Tout me semble faux. » dit-elle, étonnée elle-même de s'entendre prononcer ce mot. « Êtes-vous vrai ? Voyons. » « Oui, » reprit-elle avec une nuance très marquée d'affection en regardant André, « vous êtes vrai, vous. Vous n'essayez pas de vous donner le change, de vous tromper vous-même. » Antoine Jacquier restait silencieux, le coude sur la balustrade découpée du petit balcon, les yeux tournés vers l'obscurité vaste et tranquille où dormaient les champs. Que le ciel était immense, d'un horizon de montagnes à l'autre, et que, derrière lui, ce coin rose où l'on chantait lui parut tout à coup plein d'agitation et de banalité. Mais il ne dit rien, il souhaitait d'entendre encore Juliette. Les choses incohérentes qu'elle disait, qui, pour d'autres, eussent été des énigmes, il les comprenait toutes et bien au-delà des mots. Lui aussi, il était là des apparences, des duperies d'imagination, des griseries volontaires de chants et de rires pour oublier, pour se faire accroire, l'espace d'une heure, qu'on est un autre soi-même. Il sentait que, de trois, André Humbert était le seul qui osa regarder la vie en face, le seul qui accepta pleinement et courageusement la réalité. « Écoutez, maman, » fit Juliette au bout de quelques minutes de silence. Elle chante « Il pleut bergère ». C'est son triomphe. Il n'y a qu'elle au monde, je crois, qui en sache tous les couplets. Pauvre maman, quand elle aura fini, il faudra servir le thé. Nous manquerons de tasses, fit-elle d'une voix qui tout à coup s'émut et trembla à la grande surprise des deux amis. Cela vous fait rire, poursuivit-elle avec plus de vivacité. Mais cela est encore le mensonge où je dois vivre. Nous donnons une soirée, nous prenons des airs gais et brillants, nous mettons des fleurs partout, et nous n'avons pas même de tasses pour nos invités. Je ne cherche pas à cacher notre délabrement, mais je souhaiterais au moins de ne pas l'exhiber. Nous avons en tout 7 tasses présentables, et nous sommes 18. Le grand malheur, dit André doucement, nous boirons notre thé dans des verres. Cela ne se fait-il pas ? Ils se mirent à la consoler de leur mieux par des arguments masculins auxquels Juliette ne répondait qu'en secouant la tête. C'était si bon d'être consolée, d'être grondée ainsi, et de se laisser voir faible et déraisonnable quand tous les jours de sa vie, elle devait se raidir pour être forte. Antoine Jacquier s'étonnait. Quels étranges contrastes dans cette petite âme de jeune fille! Il y découvrait des profondeurs de sentiments et des puérilités singulières, une vive sincérité, le mépris de tout faux-semblant, et tout à côté, d'insurmontables répugnances à avouer la réalité sordide. Et ce mélange, ces inconséquences, cette faiblesse le touchaient. Il les aimait chez Juliette à cause du son de sa voix, cette voix basse, modulée, changeante, à cause de la nuance de ses yeux, à cause d'un petit mouvement de tête fier qu'elle avait en parlant, à cause de tout ce qui était elle, Juliette, la seule. Il ne la regardait plus, il détournait de nouveau la tête, mais elle était là, sentant comme lui cette grande paix de la nuit, des étoiles, troublée comme lui par l'infini problème de vivre. Il pencha son front sur la balustrade, saisi d'émotion, de tendresse et de crainte surtout, qu'était ce nouveau lien. Un sanglot inexprimable lui serra la gorge. À tout son fardeau s'ajoutait le fardeau de Juliette. Des sentiers obscurs s'ouvraient devant lui et l'emmenaient, plus enchaîné qu'auparavant, bien loin de son but. C'est ainsi que l'amour lui vint, inquiet et triste. André Humbert, silencieux, comme s'il eût deviné quelque chose, resta près de son ami quand Juliette les quitta pour aller servir le thé. « Elle ne ressemble à aucune autre, » dit Antoine. « Je me demande, » poursuivit-il après une pause, « comment nous nous passions d'elle avant de la connaître. C'est bien étrange, cette intimité venue si vite. Tout ce que j'éprouve, elle l'éprouve également, et quand elle parle, je me comprends mieux moi-même. Pauvre petite, chère petite, » fit-il à voix basse, presque involontairement. André Humbert posa sa main sur celle d'Antoine et la pressa fortement, mais il ne dit rien. Il avait besoin de toute sa volonté pour se défendre d'un égoïste et bien naturel retour sur lui-même. Dans l'autre jardin, derrière la haie, une voix s'éleva tout à coup. « Monsieur Antoine !» Surpris, Antoine se pencha, ne vit rien, car s'il était éclairé, lui, par la lumière rose sortant du salon, les deux jardins, en bas, se trouvaient dans une ombre épaisse. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Est-ce vous, Julie ?» Il avait cru reconnaître la voix de leur vieille domestique. « Oui, c'est moi, monsieur Antoine. Vous devriez bien appeler madame. Monsieur n'est pas bien. Il se sent faible. » « Je descends, Julie. Retournez vite auprès de mon père. »